Duval, bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, pendant longtemps, l'État a été un principe viril. Il maintient l'ordre, il dispose de la force. Au XXe siècle, et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'État, comme la société, s'est féminisé. Il est devenu protecteur, soignant, assistant, régulant. C'est cette mixité de principes qui définit l'État moderne. Plus doux, plus libre, plus soucieux de paix que de conquête, de bonheur que de puissance. Cette mutation de l'État n'est pas sans rapport précisément avec la révolution féministe. Or, quand Sarkozy supprime la police de proximité et qu'à Toulouse, il déclare aux policiers « Vous n'êtes pas des assistantes sociales », Il leur rappelle, en bon macho, qu'ils ne sont pas des gonzesses et qu'en outre, l'État doit retrouver à travers eux son identité virile. Il n'y a pas un vœu plus réac et rétrograde que ça, si on y réfléchit bien. Sous ses allures modernistes, Sarkozy est incapable de rêver autre chose que les très vieux schémas patriarcaux selon lesquels l'ordre viril prime sur la justice, qui est, par nature, elle, mixte. Son recours permanent aux religieux, quelle que soit leur confession, est un autre aveu de sa vision archaïque d'un monde régi par un pouvoir forcément phallique et transcendant. L'idée de la révolution libérale de la fin des années 70, dont nous payons les conséquences aujourd'hui, était que l'État devait devenir modeste, c'est-à-dire abandonner les territoires, les champs d'action et les prérogatives relevant de la solidarité et de la protection sociale. Or, ce sont sur ces territoires abandonnés que la violence s'est installée, dans les deux camps, celui des forts comme celui des faibles. Le pouvoir de l'argent a changé de territoire. Il s'est trouvé des paradis fiscaux, des zones à exploiter, une mobilité, des niches hors du droit, où la police ne pénètre pas plus facilement que dans les ghettos de la misère. Pendant des siècles, la richesse était les objets difficiles à réaliser, le matériel, les choses attribuées d'un certain pouvoir. Dans les premiers temps de l'industrialisation, c'était surtout le désir de possession des biens de consommation qui motivait les revendications. Les salaires, le niveau de vie et le temps de travail étaient les thèmes des luttes. Or, les dernières grandes manifestations sociales, là de cet automne par exemple, sont restées sans écho. Non que le problème de l'accès à l'aisance soit réglé pour tout le monde, loin de là, mais malgré le chômage et la paupérisation, c'est sur un autre thème que la révolte s'exprime. Si les émeutiers de banlieue, outre les représentations de l'État, brûlent des voitures, c'est qu'elles symbolisent désormais ces biens de consommation sans grande valeur, faciles à obtenir par le crédit ou par la fauche. Enfin bon, l'objet de consommation reste convoité, mais n'est plus précieux. Il se produit à la chaîne, on ne risque pas vraiment d'en manquer. Ce qui est devenu précieux, c'est le territoire. La folle hausse de l'immobilier est une des formes que prend la guerre pour le territoire. Les émeutes de banlieue en sont une autre. Les bandes luttent pour un territoire sur lequel elles veulent faire régner un certain ordre. Le retrait de l'État a rallumé une guerre archaïque où la violence tend à imposer un pouvoir. Celui des dealers, celui des religieux, celui des noirs, celui des blancs, celui des arabes, qu'importe. On cultive une identité pour former un groupe suffisamment fort afin d'imposer sa loi aux autres. On attendait une crise sociale, on a une crise territoriale. Or, l'identité est inversement proportionnelle à l'humanisme, ce qu'on pourrait appeler l'humanisme. Plus l'identité est forte, plus la culture est faible. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement la lutte des riches contre les pauvres. Les derniers sondages qui montrent l'approbation massive des mesures prises par le gouvernement le prouvent. Il s'agit d'une lutte pour un territoire où l'identité peut s'épanouir. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la lutte pour un espace où l'individu peut s'épanouir. Les légitimes revendications sociales s'expriment aussi, mais elles sont au second plan. D'abord, je veux qu'on reconnaisse mon identité, ensuite, ce dont j'ai besoin. Plus l'identité s'épanouit, plus les sacrifices demandés aux individus sont grands. À identité forte, individu faible, mais soumis à une autorité forte, car l'appartenance identitaire implique une forme de pouvoir qui traverse tout le corps. Les identités se renforcent entre elles, qu'elles s'opposent ou qu'elles s'additionnent. Identité sexuelle, identité religieuse, identité ethnique, identité de mœurs et de coutume. Confondre identité et culture est un contresens tragique, car l'identité est un état alors que la culture est un devenir. La culture porte en elle un universalisme dont l'heureuse conséquence est un affaiblissement de l'identité. Les identités, pour parler bref, commencent vraiment à nous emmerder. Là où le collectif démocratique, redistributeur et régulateur se retire, aussitôt apparaît le territoire comme un champ de bataille des identités. Chercher dans la bataille ce qui est de gauche ou ce qui est de droite est vain. La lutte de territoire précède l'invention de la dialectique gauche-droite. Le territoire délaissé par le droit est un champ de lutte uniformément réactionnaire. La meilleure chose qui pourrait arriver, ce serait précisément que les conflits aient lieu dans un champ culturel où il y aurait de la gauche et de la droite. Aujourd'hui, rien n'est plus méprisé que l'art de la politique. Dommage, car les idées finissent par se négocier, et cette négociation permanente, c'est la vie même. Tandis qu'une identité se défend jusqu'à la mort, comme les mafias nettoient un territoire en éliminant les rivaux. La langue qui s'y parle est truffée de Karcher et de racailles, et on ne peut pas reprocher à Sarkozy de ne pas la parler couramment.
Merci beaucoup, Philippe Val. Vous m'avez rarement fait autant plaisir.